Vous écoutez, on lit pour vous.
1897, le premier taxi électrique, un texte de Marc Tison, paru le 17 juillet 2023 dans la presse. Trop tôt ou trop tard, certaines prouesses technologiques ont été réalisées au mauvais moment. Cet été, nous relatons quelques-uns de ces malheureux exploits dans le secteur du transport. Un petit voyage dans le temps. En 1899, c'est un fabricant de taxis électriques qui était le plus important constructeur automobile en Amérique du Nord. Mais l'essence allait bientôt faire explosion. À New York, en 1899, vous pouviez emprunter un taxi électrique qui, à la défrisante vitesse de 15 km/h, vous amenait à destination sans hennissement ou pétarade, ni odeur de crottin ou d'essence mal brûlée. Son origine remonte à ce qui est sans doute la première voiture électrique à trouver une application commerciale, l'électrobat. L'aventure ne commence pas à Détroit, mais à Philadelphie. L'ingénieur Henry J. Morris et le chimiste Pedro J. Salom y ont uni leurs compétences pour concevoir, sur la base d'une charrette de livraison, un véhicule électrique de 1930 kg. La batterie pesait à elle seule 725 kg, qui a parcouru à petite vitesse la rue principale de la ville en août 1894. À peine leur invention brevetée, Morris et Salom ont construit une série de 3 prototypes de tailles différentes. Le plus grand des 3 présente une apparence rutilante, avec une finition contrastée en rouge et noir, sans qu'aucune machinerie ne soit visible, à l'exception du levier de direction, décrit le mensuel d'avant-garde technologique « The Horseless Age », l'ère sans cheval, ou l'ère post-équine, dans son numéro de décembre 1895. L'électrobat ressemble vaguement à un crapaud, mais le suffixe « bat » ne réfère ni à batracien ni à batterie, mais au mot grec « batein » signifiant « aller ». Haut sur roue, il accueille le conducteur et un passager sur sa banquette frontale. Il est muni d'une traction avant et d'un train arrière directionnel. Son poids a été abaissé à 750 kg. Le véhicule peut atteindre 32 km/h avec une autonomie de 40 km, soutient la publication. C'est sur cette base que les deux inventeurs vont réaliser une autre première mondiale, 115 ans avant Théo Taxi, une société de voitures taxi entièrement électrique. Les indéniables avantages de l'électricité. Dans le numéro de janvier 1896 de The Horseless Age, Morris et Salom ont annoncé leur intention de fonder une entreprise pour la construction de leur véhicule électrique, l'Electric Carriage and Wagon Company. En l'absence de stations de recharge, ils se retiraient à l'Est de viser le marché des voitures particulières. Ils veulent d'abord s'adresser aux services de voituriers et aux parcs de véhicules de livraison qui peuvent recharger leurs batteries au dépôt durant la nuit. En 1895, l'automobile électrique présente encore de sérieux avantages sur ses concurrents. Elle est plus rapide que le véhicule à essence, offre une plus grande autonomie que la voiture à vapeur, démarre instantanément sans qu'on ait à s'échiner avec une manivelle, elle est silencieuse et ne produit aucune émanation, au contraire du cheval et du moteur à explosion. Vous écoutez 1897, le premier taxi électrique, un texte de Marc Tison paru le 17 juillet 2023 dans la presse. Les premiers taxis motorisés. Le 27 mars 1897, Morris et Salome lancent dans Manhattan un parc d'une douzaine de taxis électriques. Les deux passagers sont assis à l'avant et le conducteur à l'arrière, à la manière des fiacres londoniens. Ce sont sans doute les premiers taxis motorisés de l'histoire. La London Electrical Cab Company mettra ses premiers taxis électriques en service en août 1897 et Paris testera son premier fiacre électrique la même année. 4 mois plus tard, Morris et Salome écrivent à The Horseless Age pour faire état des premiers mois d'activité. Entre le 27 mars et le 1er août, leurs taxis ont parcouru 23 270 km, soit une moyenne de 2 370 km pour les 10 taxis mis en service. Ils ont franchi en moyenne 18 km par jour et ont transporté un total de 4 765 clients. En panne de liquidité, l'entreprise est cependant incapable d'élargir son parc. L'article a néanmoins attiré l'attention d'un dynamique homme d'affaires new-yorkais, Isaac L. Rice. Rice rachète l'Electric Carriage and Wagon Company à ses fondateurs, qui disparaissent alors de l'histoire, et fonde en septembre 1897 l'Electric Vehicle Company, EVC. À la demande de Rice, l'Electric Storage Battery, où il détient des intérêts, met au point un système de batteries permutables qui peuvent être rechargées indépendamment et installées à bord des véhicules. Un vaste atelier est construit dans l'édifice d'une patinoire désaffectée avec des stalles où les batteries sont glissées sous les voitures. Au début de 1899, une centaine de taxis sont en service, nous informe la revue Scientific American dans sa publication du 25 mars 1899. Leur batterie leur procure une autonomie de 40 à 48 km à la vitesse normale de 13 km/h. C'est alors que les fils commencent à s'en mêler. The Lead Cab Trust. En avril 1899, le financier new-yorkais William C. Whitney et quelques associés montent à bord avec de grandes ambitions et un financement boursier important. Ils entrevoient déjà une armada de 12 000 taxis sillonnant les rues des principales villes américaines et, pourquoi pas, européennes. Rapidement, l'EVC y met sur pied des services de taxis électriques à Chicago, Boston, Newport, Philadelphie, Washington. Un bureau est même ouvert à Paris pour étudier le marché européen. La seule entreprise alors en mesure d'entreprendre une telle production est le plus grand fabricant de vélos en Amérique, la Pope Manufacturing, à Hartford. Son président, Alfred A. Pope, vient justement de se lancer dans la construction d'automobiles électriques sous la marque Columbia. Il s'associe avec l'EVC pour former la Columbia and Electric Vehicle. Elle reçoit une première commande de 200 taxis et bientôt de 1600 autres. À la fin de 1899, la Columbia est, brièvement, le plus important constructeur automobile aux États-Unis. Le service de véhicules électriques lancé par Morris et Salome est devenu la plus grande entreprise automobile de l'époque. À son apogée, l'Electric Vehicle Company était à la fois le plus grand constructeur de véhicules et le plus grand propriétaire et exploitant de véhicules à moteur aux États-Unis. Selon David A. Kirsch, auteur de The Electric Car and the Burden of History, la dégringolade sera rapide. La fin de la course. À New York, le service de taxis électriques semble faire ses frais, mais sur les autres marchés, une gestion approximative et un entretien déficient perturbent les activités. La bulle éclate en 1901 avec la faillite de la filiale de Chicago, alors que des soupçons de magouille boursière courent à propos de l'EVC, surnommé le Lead Cab Trust. Les taxis new-yorkais survivent à la débandade, mais l'Electric Vehicle Company, étranglée, est incapable de renouveler son parc. L'entreprise disparaît en 1907. Les voitures à essence prennent alors le relais sur tout le réseau routier. La découverte des grands gisements pétrolifères du Texas en 1901, la construction à grande échelle du Model T de Ford dès 1908 et l'apparition du démarreur électrique en 1912 ont condamné la voiture électrique. La Columbia and Electric Vehicle, renommée Columbia Motor Car en 1908, a été acquise en 1910 par United States Motor, qui a elle-même fait faillite en 1912. La même année, alors qu'un petit cabriolet électrique coûte 1 750 $, le piéton peut se procurer une voiture à essence pour 650 $. De toute l'aventure, seule l'Electric Storage Battery a survécu jusqu'à nos jours sous le nom d'Exide. Ironiquement, c'était le nom qu'elle avait donné en 1900 à la batterie spécialement conçue pour le service de taxi électrique new-yorkais. C'était 1897, le premier taxi électrique, un texte de Marc Tison, paru le 17 juillet 2023 dans la presse.
Le zona est-il contagieux? Un texte de Marine Cornioux, paru le 17 mai 2018 dans le magazine Québec Science. Le zona est-il contagieux? En un mot, oui. Mais une personne atteinte de zona ne transmettra pas le zona, cette affection qui se traduit par une éruption cutanée douloureuse localisée sur un côté du corps. Elle transmettra plutôt la varicelle. En effet, le virus en cause, le VZV, a la particularité de provoquer deux maladies bien distinctes, la varicelle et le zona. La première infection, avec le VZV, cause la varicelle, explique Anne Gershon, pédiatre spécialiste du VZV au Columbia University Medical Center. Le virus se tapit ensuite dans les cellules nerveuses où il reste dormant. Si le système immunitaire s'affaiblit, l'infection latente peut se réactiver. Le virus sort alors des neurones pour atteindre la peau où il cause un zona. Ce dernier apparaît chez environ 30 % des personnes ayant eu la varicelle, mais plusieurs décennies plus tard. Le VZV est présent dans les vésicules qui apparaissent sur la peau en cas de zona. C'est à ce moment-là, avant que celle-ci ne forme des croûtes, que le malade est contagieux, en cas de contact direct avec ses lésions. Il n'y a pas de transmission aérienne, contrairement à la varicelle. Attention donc, s'il y a dans l'entourage des bébés ou des personnes n'ayant jamais attrapé la varicelle, il y a un risque. Et pour être clair, on n'attrape pas le zona si on est en contact avec quelqu'un qui a la varicelle. Le zona vient d'un virus déjà présent dans l'organisme, ajoute l'experte. Deux vaccins, le Zostavax et le Shingrix, sont recommandés aux personnes de 60 ans et plus pour empêcher le réveil du VZV. C'était « Le zona est-il contagieux ?» un texte de Marine Cornioux, paru le 17 mai 2018 dans le magazine Québec Science.
Cocktail dangereux, la drogue du viol. Un texte de Sophie Mangado, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Curium. La drogue du viol, ou GHB, est un peu l'arbre qui cache la forêt. En réalité, toutes les drogues peuvent mettre chaos. Effets, conséquences et protections, on démêle le tout. Imaginez cette histoire. Ellie se rend à une fête. Elle prend un verre, peut-être deux. Assez vite, elle perd le contrôle de son corps. Ses jambes deviennent molles, elle a très chaud, les battements de son cœur s'accélèrent. Elle se rend à la salle de bain, quelqu'un la suit, lui demande si elle a besoin d'aide. Elle est consciente, mais impossible de lui répondre. Puis, le trou noir. Ellie se réveille des heures plus tard, partiellement dévêtue dans un parc résidentiel près du lieu de la fête. Elle ne se souvient de rien. Ses amis n'ont rien vu. Comme bien des victimes de soumission chimique, Ellie garde un sentiment de culpabilité exacerbé par son amnésie. Elle ne connaîtra jamais le fil des événements ni l'identité de son agresseur. Party risqué. Bien que fictif, ce scénario témoigne d'une réalité. La soumission chimique est un acte criminel. Il consiste à profiter des facultés affaiblies d'une personne pour obtenir quelque chose qu'on n'aurait pas eu si elle avait été à jeun. Dans les années 1990, le GHB est sous les projecteurs. Cette drogue produit des effets semblables à ceux de l'alcool, mais décuplés. Des personnes sont droguées à leur insu, par le biais de leurs boissons et des agressions sont rapportées. L'expression « drogue du viol » s'inscrit dans la culture populaire. Toutefois, il n'existe pas une seule drogue du viol, souligne Maïté Fournel, formatrice au GRIP, groupe de recherche et d'intervention psychosociale, ayant pour mission la réduction des risques associés à la consommation de drogue. Cette croyance fort répandue comporte des risques. Elle vient avec l'idée que si je ne consomme pas de GHB, je vais être correct, poursuit-elle. Or, toutes les drogues altèrent les facultés. Il existe toujours un danger, quelle que soit la substance. La première substance en cause dans les agressions? L'alcool. Les substances utilisées dans les cas de soumission chimique appartiennent principalement aux catégories des dépresseurs et des perturbateurs. GHB, mais aussi alcool, cannabis, kétamine, ecstasy, champignons magiques, LSD, PCP et opioïdes. Leurs effets secondaires sont nombreux. Engourdissement, désorientation, amnésie, perte de conscience, problèmes respiratoires, modification de la vue ou du toucher. Certains médicaments provoquent des effets similaires. En cas de mélange, les effets sont multipliés et difficilement prévisibles. Pour que le party reste le fun, bien se préparer. Où allez-vous? Avec qui? Sortir dans un lieu connu avec des personnes de confiance, c'est un facteur de protection. Prévoir le retour à la maison. Tard dans la soirée, c'est plus compliqué. Désigner une personne comme gardienne de la soirée. Elle sera responsable de ne rien consommer et de veiller sur les autres. Prendre soin de votre gang. Votre ami a consommé et s'éclipse avec une personne inconnue. Vous craignez qu'il se passe quelque chose? Allez la trouver. Un ami a consommé et ne se sent pas bien? Ne le laissez pas seul. Restez à l'écoute de vos sentiments et de vos limites. Vous vous sentez mal? Dites-le sans attendre à une personne fiable. Consentir et consommer? Altération du jugement, de la mémoire ou de l'inhibition. Sous l'effet d'une drogue, il est plus difficile d'agir conformément à nos valeurs ou de respecter nos limites et celles des autres. Le consentement n'est valide que si la sobriété est au rendez-vous pour toutes les personnes impliquées. Point barre. Détecter l'invisible, pas si simple. Inodore, incolore, insipide et très puissant à faible dose, le GHB est facile à dissimuler. Des établissements fournissent des sous-verres permettant de détecter sa présence dans une boisson. Pas bête, mais efficace uniquement avec le GHB. En 2014, l'entreprise américaine Undercover Colors a développé un vernis à ongles, des pastilles de plastique et des bandelettes capables de détecter certains médicaments comme le Xanax, le Valium et le Rohypnol. Après un buzz médiatique et des millions de dollars investis en recherche, les tests n'ont pas été concluants. À ce jour, ces tranquillisants ne sont toujours pas détectables. Reste le capuchon de verre. Certaines marques ont même créé des chouchous à cheveux qui se transforment en couvercles textiles. Le problème, c'est que ces accessoires ne sont pas infaillibles, prévient Maïté Fournel. Il crée un faux sentiment de sécurité. Que faire alors? La responsabilité ne devrait jamais reposer sur les victimes. La clé passe par l'éducation et la sensibilisation. On explique tout le temps comment ne pas se faire agresser, mais il faudrait surtout rappeler que profiter d'une personne en situation de vulnérabilité, ça ne se fait pas, souligne Marie-Claude Sauvé. C'était « Cocktail dangereux », La drogue du viol, un texte de Sophie Mangado, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Courium.
L'importance des tourbières, l'exemple du boisé des terres noires, par Daniel Nishaw, professeur au département des sciences biologiques, UQAM. Michel Garneau, professeur au département de géographie, UQAM, en collaboration avec Dominique Tardif, biologiste et agente de recherche, UQAM. Paru dans Reflet, juin 2023. Les tourbières sont des milieux humides qui couvrent seulement 3% de la surface terrestre mondiale, mais qui stockent plus de 550 milliards de tonnes de carbone, soit deux fois plus que tous les sols des forêts du monde, ce qui les place en tête de la liste des écosystèmes à protéger. En plus d'être d'importants écosystèmes pour la faune et la flore sauvage, les tourbières assurent un rôle de régulation du réseau hydrographique et du climat, notamment parce qu'elles absorbent naturellement plus de carbone qu'elles n'en relâchent. Cependant, depuis quelques années, elles sont touchées par plusieurs perturbations naturelles et anthropiques. Au Québec, les tourbières occupent plus de 10 % de la superficie terrestre et sont concentrées surtout sur le territoire boréal. Dans le sud de la province, beaucoup de tourbières autrefois abondantes ont disparu. La loi concernant la conservation des milieux humides et hybrides, LCMHH, mise en place en 2017, devrait limiter leur dégradation, alors que pendant longtemps, cet enjeu a été peu considéré. En effet, plusieurs grands milieux naturels à proximité de la région de Montréal, morcelés par l'urbanisation et l'expansion agricole, ont disparu progressivement au fil des ans. Ces perturbations exercées sur ces milieux ont facilité l'envahissement par des espèces végétales exotiques comme le roseau commun, Phragmites australis. Le boisé des terres noires à l'Assomption est un milieu humide d'un peu plus de 37 hectares dont la tourbe a été extraite par le passé et qui, depuis, a été envahie en grande partie par le roseau commun. En 2016, la réalisation d'un projet de restauration a débuté dans ce boisé en vue de contrôler l'envahissement de cette plante et de favoriser un retour à des conditions naturelles. Plusieurs professeurs de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, collaborent à ce projet avec un groupe de conservation, la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière, FCEL. La restauration du boisé des terres noires est passée par plusieurs phases, commençant par une restauration de tourbières arbustives jusqu'à une restauration de tourbières dominées par les bryophytes. La première année, plus de 14 000 arbres de différentes espèces ont été plantés et depuis maintenant 3 ans, c'est au tour des mousses d'être restaurées, bien que l'on sache qu'un mètre de profondeur de tourbe prend naturellement 1 000 ans à s'accumuler. En recréant une tourbière arbustive typique des basses terres du Saint-Laurent, ce projet de restauration vise notamment à améliorer la biodiversité faunique et floristique des lieux, mais aussi à réduire les risques associés à la croissance d'espèces envahissantes comme le roseau commun et le nerprun, bourdaine et cathartique, déjà présentes sur le site. Depuis août 2022, l'aire de restauration porte désormais le nom officiel de Réserve naturelle du Boisé des Terres Noires. C'est la première fois qu'on constitue en réserve naturelle un territoire en restauration et cela a été rendu possible, du moins en partie, en alliant la recherche en sciences écologiques de l'UQAM et les actions de la FCEL. Au début du projet, le site se caractérisait par une végétation dominée par le roseau commun et par une faible diversité animale. Après 7 ans d'efforts de restauration, on y répertorie 127 espèces de végétaux et 113 espèces fauniques. Malgré le succès du projet au Boisé des Terres Noires, il faut retenir l'ampleur des investissements nécessaires pour faire de la restauration et le fait qu'il ne faut pas réduire ni abandonner les efforts, car les espèces envahissantes sont toujours prêtes à prendre la relève. C'est pourquoi le maintien et la conservation des milieux naturels, comme les tourbières, devrait être une priorité dans la lutte contre la perte de biodiversité et le réchauffement climatique. C'était l'importance des tourbières, l'exemple du Boisé des Terres Noires, par Daniel Nisha, professeur au département des sciences biologiques UQAM, Michel Garneau, professeur au département de géographie UQAM, en collaboration avec Dominique Tardif, biologiste et agente de recherche UQAM, paru dans Reflet en juin 2023.